Petites histoires de science. Astronome allemand, principalement connu pour sa découverte d'Uranus, il compose aussi de la musique. Cet autodidacte aux multiples vies est aussi le découvreur du rayonnement infrarouge. Cet astronome, c'est William Herschel. Il ne vit pas en Allemagne, mais en Angleterre où il s'est réfugié. William Herschel est un astronome d'origine allemande, né en 1738 à Hanovre. Il est le troisième des six enfants survivants, nés d'Isaac Herschel et d'Anna Ilsmoritzen. Et il est le fils d'un chef d'orchestre de la garde hanovrienne. Et donc il est élevé dans la peau d'un musicien. À 14 ans, il devient oboïste dans le régiment de son père. Donc à cette époque, le talent de William en musique l'amène à la théorie musicale. Et il hérite de la fascination de son père pour la philosophie naturelle, ce qui va avoir un rôle essentiel un peu plus tard dans sa vie de scientifique. Et en particulier, c'est lors d'un voyage en Angleterre avec son régiment en 1756 qu'il va acheter un exemplaire de l'essai de John Locke sur la compréhension humaine. Et cette visite va avoir un rôle considérable là aussi dans son épanouissement personnel plus tard. En 1757, à 19 ans donc, son régiment est sous le feu des Français et il émigre en Angleterre. Alors il arrive en Angleterre avec une couronne française dans sa poche seulement, un petit peu le mythe de celui qui arrive en pays étranger avec rien dans sa poche et qui va réussir. Eh bien, il en est l'incarnation. Pendant 9 ans, William travaille comme musicien itinérant jusqu'à ce qu'il obtienne un poste d'organiste en 1766 dans la chapelle Octagone, dans la station balnéaire de Basse. Alors William va revenir en Allemagne, à Hanovre, en 1772, donc 6 ans plus tard. Et il va ramener avec lui Caroline, sa sœur, en Angleterre, et elle va contribuer grandement à ses recherches par la suite. Alors je vous propose d'écouter une œuvre de William Herschel, qui correspond à sa période anglaise, début de sa période anglaise, l'Adagio ma non molto de sa symphonie numéro 2 en Ré majeur. Thank you. Alors comment est-ce qu'il en est venu à l'astronomie? Même s'il continue à écrire de la musique et à donner des cours de musique aux étudiants ou à sa sœur, tout ce petit monde participe non seulement à recopier sa musique, mais également lors des représentations publiques, la passion de William va se tourner vers l'astronomie. Alors il achète des ouvrages populaires sur l'astronomie, l'optique, il loue quelques petits télescopes au début, il achète du matériel pour fabriquer ses propres réflecteurs, et il commence à observer le ciel au début de l'année 1774. Alors à une époque où presque tous les astronomes pratiquent l'astronomie de position, à l'aide de télescopes réfracteurs, c'est-à-dire on fait juste passer la lumière à travers de lunettes optiques, hein, qui sont conçues pour la mesure de précision, William Herschel, lui, construit d'immenses télescopes à réflexion, c'est-à-dire des télescopes de Newton, et ils sont conçus pour maximiser la puissance, la résolution, le grossissement de la lumière. Et donc, lui, ce qu'il cherche à déterminer comme réponse, c'est la nature de la Voie lactée, et voir même s'il y a de la vie extraterrestre sur les autres planètes, c'est une question qui le fascine. En 1779, Herschel commence une série de balayages systématiques du ciel. Il observe toutes les étoiles visibles, depuis là où il est, donc à basse. Donc des étoiles jusqu'à la quatrième magnitude, donc vraiment la limite de ce que l'œil peut voir à l'œil nu. Alors plus tard, les balayages vont inclure toutes les étoiles jusqu'à la huitième magnitude, puisqu'il va développer des télescopes de plus en plus puissants, et il va répertorier ainsi des étoiles doubles. Il en compte 848 dans son catalogue. Et il découvre que ces étoiles sont en réalité liées par gravitation, elles tournent autour de leur centre de gravité commun. Ça c'est tout à fait nouveau pour l'époque. Alors au cours d'une de ces opérations de balayage, le 13 mars 1781 précisément, il va faire une découverte assez étonnante. Alors au départ, il aperçoit ce qu'il considère juste être une étoile ou une comète nébuleuse, il ne sait pas trop. Et il observe l'objet au cours des semaines suivantes, et il se persuade qu'il observe une comète qui s'approche. Alors en fait, c'est pas du tout une comète qui s'approche, Herschel va écrire à l'astronome royal, Neville Maskelyne, et cet astronome, lui, suggère que c'est plutôt une planète inconnue. Alors ça va être confirmé par Anders Lexell, un autre astronome de Saint-Pétersbourg, qui va calculer pour la première fois l'orbite d'Uranus, et donc pour la première fois, on découvre une planète au-delà de ce qui est visible, donc au-delà de Saturne, et ce ne sera pas la dernière planète, puisque Neptune viendra un peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Donc la petite musique qui nous accompagne est l'Allegro de la symphonie numéro 2, toujours de William Herschel. On va maintenant venir à la découverte qui nous intéresse, c'est celle des rayons infrarouges. Alors ces recherches les mènent à observer le soleil et à utiliser différents verres assombrissants comme filtre. Il remarque alors qu'une sensation de chaleur différente se fait en fonction de la couleur du verre qu'il utilise. Cette situation déclenche chez Herschel le questionnement suivant. Quel rapport cette chaleur entretient-elle avec le spectre visible, avec les couleurs ? Herschel réalise alors une série d'expériences assez simples, mais magnifiquement exécutées. Alors vous trouverez les références de cet article sur le site Petites Histoires des Sciences. Alors sa première expérience, elle consiste à mesurer la température des différentes couleurs du spectre. Donc pour obtenir un spectre, ça on sait le faire depuis une centaine d'années à peu près avec Isaac Newton, on utilise un prisme placé devant une fenêtre orientée au sud pour capter le soleil. Donc on fait une petite fente pour laisser passer la lumière qu'on dirige sur le prisme, et donc ce prisme va disperser les couleurs sur une table. Bon, le problème évidemment c'est que la Terre est en train de tourner et donc ce spectre se décale. Donc il faut tourner le prisme afin de compenser la rotation de la Terre. Et donc Herschel met au point un petit système qui lui permet d'avoir un spectre immobile sur une table, et puis un petit panneau de carton avec une fente suffisamment large pour laisser une seule couleur, qui va être placée à l'arrière du prisme. Donc si vous voulez, vous avez votre arc-en-ciel, et puis derrière on met encore un cache avec une fente pour isoler les couleurs. Et donc derrière, on n'a qu'une seule couleur, on va placer un thermomètre qui va nous donner la température que l'on a derrière, sous la couleur. Alors, il utilise pour ses mesures trois thermomètres à mercure en verre, avec leurs ampoules noircies pour mieux absorber la lumière. Et un seul thermomètre est placé dans la lumière colorée, les deux autres vont rester dans l'obscurité pour mesurer la température de la pièce et servir de témoin. Alors, il va laisser le premier thermomètre, celui qui est sous la couleur, une dizaine de minutes, et puis il va relever la température en degrés Fahrenheit, mais bon, ce qui nous va nous intéresser, nous, c'est la variation de température, donc que ce soit en Fahrenheit ou en Celsius, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la variation. Et puis il va réaliser plusieurs fois l'expérience, d'abord pour le rouge, et donc pour le rouge, il va obtenir une élévation moyenne de 6,75 degrés. Alors il refait la même expérience avec le vert et le violet, donc les couleurs les plus larges du spectre obtenu. Et donc pour le violet, il a une élévation de température de 2 degrés, et pour le vert, 3,25. Et donc pour le rouge, on était à 6,75. Donc vous voyez qu'il y a une gradation, hein. Plus on va vers le rouge, plus l'élévation de température est importante. Et donc à partir de ces données, Herschel estime avoir prouvé son hypothèse selon laquelle la chaleur serait distribuée en fonction de la couleur. Alors il cite ceci dans son article, « Ce qui prouve seulement que le pouvoir chauffant des couleurs prismatiques est très loin d'être divisé également et que les rayons rouges sont principalement importants à cet égard. » Donc je vous propose maintenant d'écouter la symphonie numéro 17 en Do majeur, toujours de William Herschel, l'Adagio Manon Troppo. Alors, quelque chose à propos des relevés de température va le déranger quand même. Il s'était bien attendu à ce que les lectures soient différentes pour les différentes couleurs, mais les mesures révèlent une chose à laquelle il ne s'attendait pas, il y a une tendance à la hausse et non à un pic dans le spectre. Alors si le maximum se situe en dehors du spectre visible, le chauffage ne provient pas de la lumière mais de quelque chose d'autre. Et donc il va proposer cette expression suivante, de lumière invisible, en la formulant avec précaution, de manière à indiquer qu'il sait qu'il s'agit d'un oxymore, puisque la lumière est quelque chose de visible, et lui il parle de lumière invisible, il parlera même de chaleur radiante. Alors voilà comment il l'exprime dans son article. J'en conclus, de même que le rouge vif n'atteint toujours pas le maximum de chaleur, qui peut être même un peu au-delà de la réfraction visible. Dans ce cas, la chaleur rayonnante consistera au moins en partie, sinon principalement, si on me permet l'expression, de lumière invisible, c'est-à-dire des rayons provenant du soleil qui ont un élan tel qu'ils sont impropres à la vision. Alors la notion d'élan ou d'impulsion, c'est intéressant ça, puisque ici Herschel renvoie à la théorie corpusculaire de la lumière qui avait été formulée par Isaac Newton. Or, il y avait une autre théorie qui était la théorie ondulatoire de la lumière qui avait été développée par Christian Huygens. Et l'affaire n'est toujours pas tranchée à ce moment-là de l'histoire. Mais nous sommes en Angleterre et les idées Newton sont évidemment très présentes et William Herschel se situe dans le prolongement des idées d'Isaac Newton sur la nature de la lumière. Alors c'est pas le concept de rayon invisible qui intéresse tellement Herschel, hein. Ce qui le captive, ce sont surtout les propriétés de ces rayons. Un petit peu comme Isaac Newton en son temps, qui s'était pas vraiment intéressé à la gravitation en tant que telle, à la cause de la gravitation, mais plutôt aux propriétés de la gravitation. Alors il est clair pour Herschel que la chaleur rayonnante a les mêmes propriétés optiques de réfrangibilité, on dira réfraction, et les mêmes propriétés de dispersion que la lumière visible. Alors il écrit ceci. Je dois maintenant faire remarquer que mes expériences précédentes démontrent hors de tout doute que la chaleur rayonnante, de même que la lumière, qu'elle soit identique ou différente, est non seulement réfrangible, mais est également soumise aux lois de dispersion. Alors, 9 jours après ce premier article, et 10 jours avant qu'il ne présente ses travaux à la Royal Society, il écrit un deuxième article intitulé « Expérience sur la réfrangibilité des rayons invisibles du Soleil ». Donc, vous retrouverez le lien sur « Petites histoires des sciences ». Et il commence sa deuxième expérience en modifiant légèrement son dispositif pour prendre les mesures de température dans la zone sombre au-delà du rouge. Alors vous trouverez le schéma sur le site Petites Histoires des Sciences, là aussi. Il va tracer 5 lignes parallèles espacées d'un centimètre sur une feuille de papier blanc. La première ligne, il va la placer juste au bord de la bande de lumière rouge du spectre qu'il aura obtenu, dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment. Et ainsi ancré au bord du visible, il va s'aventurer dans les ténèbres avec ses thermomètres, petit à petit va aller au-delà du rouge. Alors, il prend des mesures avec son thermomètre et suivant la tendance à la hausse au maximum et au-delà jusqu'à ce que la chaleur commence à diminuer, donc il va bien observer un pic dans le rayonnement au-delà du rouge. Dans son deuxième article, l'enthousiasme et la confiance dans ses conclusions transpirent. Il écrit ceci. Pour conclure, si nous appelons la lumière ces rayons qui éclairent des objets et la chaleur rayonnante ce qui chauffe les corps, on peut se demander si la lumière est essentiellement différente de la chaleur rayonnante. En réponse à ce que je suggérais, les règles de philosophie ne nous permettent pas d'admettre deux causes différentes pour expliquer certains effets s'ils peuvent être expliqués par une seule. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant dans la pensée, et il y a une sorte même d'économie de pensée toute anglaise, hein, puisque nous avons deux phénomènes en apparence distincts, la lumière visible et la chaleur rayonnante, donc plutôt invisible, au-delà du rouge, et pourtant ces deux phénomènes répondent aux mêmes lois de l'optique. Alors finalement, est-ce que ce ne serait pas la manifestation d'un seul et même phénomène? Alors évidemment, ce qu'il ne savait pas lui à son époque, c'est que ces deux phénomènes ne sont finalement qu'un seul, ce sont les ondes électromagnétiques. Alors en 1800, il y a un autre personnage qui émerge dans le monde de la musique, c'est Ludwig van Beethoven, et donc je vous propose d'écouter sa symphonie numéro 1 en Do majeur, opus 21. Alors le troisième article de Herschel autour de cette chaleur rayonnante est de proposer des comparaisons entre la chaleur lumineuse, ou du moins la lumière visible, et la chaleur radiante, comme il l'appelle. Donc en plus de comparaisons physiologiques liées au sens, il va étudier cinq autres interactions avec la matière, que sont la réflexion, la réfraction, la dispersion, la transmission à travers des corps diaphanes, c'est-à-dire des milieux transparents, et puis la diffusion à partir de surfaces rugueuses. Alors il va faire comme ça, plus de 200 expériences, c'est un article qui est très très long, et il va enregistrer, page après page, des mesures en utilisant toutes les sources d'éclairage disponibles, qu'il va faire passer à travers des combinaisons de miroirs, de prismes, de lentilles, et il va confirmer à maintes reprises, de toutes les manières possibles, que la lumière et cette chaleur radiante ont les mêmes propriétés optiques. Alors Herschel, il n'a pas de connaissances scientifiques sur les causes de ces phénomènes, et comme on l'a dit, ça ne l'intéresse pas, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est évidemment décrire les phénomènes qui y sont liés. Sa capacité à formuler des descriptions mathématiques, ses découvertes, est de toute façon limitée, rappelons que c'est un autodidacte. Mais ses points forts, c'est sa connaissance pratique de l'optique, son savoir-faire dans la fabrication des instruments, n'oublions pas que c'est aussi un industriel, c'est quelqu'un qui vend des télescopes pour vivre et des optiques, et puis il a un sens de l'observation dans lequel il excelle. Alors il faut pas oublier de mentionner dans ses observations une personne essentielle dans l'accompagnement de ses travaux, c'est sa sœur Caroline, hein, qui l'a accompagné toute sa vie durant son entreprise scientifique. Bien, nous écoutons toujours la symphonie numéro 1 de Ludwig van Beethoven. Vous retrouverez l'ensemble des références bibliographiques et musicales sur le site Petites Histoires des Sciences.
Thank you.